Les frères Karamazov, première partie, livre 2, une réunion déplacée. Chapitre 1, l'arrivée au monastère. Il faisait un beau temps de fin d'août, chaud et clair. L'entrevue avec le staret avait été fixée tout de suite après la dernière messe, à 11h30. Nos visiteurs arrivèrent vers la fin de l'office dans deux équipages. Le premier, une élégante calèche, attelée de deux chevaux de prix, était occupée par Piotr Alexandrovitch Miusov et un parent éloigné, Piotr Fovitch Galganov. Ce jeune homme de 20 ans se préparait à entrer à l'université. Miusov, dont il était l'hôte, lui proposait de l'emmener à Zurich ou à Iéna pour y parfaire ses études, mais il n'avait pas encore pris de décision. Pensif et distrait, il avait le visage agréable, une constitution robuste, la taille plutôt élevée et le regard étrangement fixe, ce qui est le propre des gens distraits. Il vous regardait parfois longtemps sans vous voir. Taciturne et quelque peu emprunté, il lui arrivait, seulement en tête à tête, de se montrer tout à coup loquace, véhément, joyeux, riant de Dieu sait quoi. Mais son imagination n'était qu'un feu de paille, aussi vite allumé qu'éteint. Il était toujours bien mis, et même avec recherche. Déjà possesseur d'une certaine fortune, il avait encore de belles espérances. Il entretenait avec Alyosha des relations amicales. Fiodor Pavlovitch et son fils avaient pris place dans un landau de louage, fort délabré, mais spacieux, attelé de deux vieux chevaux pommelés qui suivaient la calèche à distance respectueuse. Dmitri avait été prévenu la veille de l'heure du rendez-vous, mais il était en retard. Les visiteurs laissèrent leur voiture près de l'enceinte, à l'hôtellerie, et franchirent à pied les portes du monastère. Sauf Fiodor Pavlovitch, aucun d'eux n'avait jamais vu de monastère, et Miusov n'était pas entré dans une église depuis 30 ans. Il regardait avec une certaine curiosité, en prenant un air dégagé. Mais à part l'église et les dépendances, d'ailleurs fort banales, l'intérieur du monastère n'offrait rien à son esprit observateur. Les derniers fidèles sortis de l'église se découvraient en se signant. Parmi le bas peuple se trouvaient des gens d'un rang plus élevé, 2 ou 3 dames, un vieux général, tous descendus à l'hôtellerie. Des mendiants entourèrent nos visiteurs, mais personne ne leur fit l'aumône. Seul Kalkanov tira 10 kopecks de son porte-monnaie et, gêné, Dieu sait pourquoi, les glissa rapidement à une bonne femme en murmurant « Partagez-les !» Aucun de ses compagnons ne lui fit d'observation, ce qui eut pour résultat d'accroître sa confusion. Chose étrange, on aurait vraiment dû les attendre et même leur témoigner quelques égards. L'un d'eux venait de faire don de 1000 roubles. L'autre était un propriétaire fort riche qui tenait les moines plus ou moins sous sa dépendance en ce qui concerne la pêche, suivant la tournure que prendrait le procès. Pourtant, aucune personnalité officielle ne se trouvait là pour les recevoir. Miusov contemplait d'un air distrait les pierres tombales disséminées autour de l'église et voulut faire la remarque que les occupants de ces tombes avaient dû payer fort cher le droit d'être enterrés en un lieu aussi saint. Mais il garda le silence. Son ironie de libéral faisait place à l'irritation. À qui diable s'adresser dans cette pétaudière? Il faudrait le savoir, car le temps passe, murmura-t-il comme à part soi. Soudain vint à eux un personnage d'une 60aine d'années, en ample vêtement d'été, dépourvu de cheveux, mais doué d'un regard tendre. Le chapeau à la main, il se présenta en zézayant comme le propriétaire foncier, Maximov, de la province de Toula. Il prit à cœur l'embarras de ces messieurs. « Le staré Zosim habite l'ermitage à l'écart, à 400 pas du monastère. Il faut traverser le bosquet. »«
Je le sais, » répondit Fiodor Pavlovitch. « Mais nous ne nous souvenons pas bien du chemin, depuis si longtemps. »«
Prenez cette porte. » Puis,
tout droit par le bosquet. Permettez-moi de vous accompagner. Moi-même, je... Par ici, par ici. » Ils quittèrent l'enceinte, s'engagèrent dans le bois. Le propriétaire, Maximov, marchait, ou plutôt courait à leur côté, en les examinant tous avec une curiosité gênante. Il écarquillait les yeux. « Voyez-vous, nous allons chez ce staré pour une affaire personnelle, » déclara froidement Miusov. « Nous avons, pour ainsi dire, obtenu une audience de ce personnage. Aussi, malgré notre gratitude, nous ne vous proposons pas d'entrer avec nous. » « Je l'ai déjà vu, un chevalier parfait, » répondit le hobereau. « Qui est ce chevalier ?» demanda Miusov. « Le staré, le fameux staré, la gloire et l'honneur du monastère, Zosim, ce staré-là, voyez-vous » Son bavardage fut interrompu par un moine en cucule, de petite taille, pâle et défait, qui rejoignit le groupe. Fiodor Pavlovitch et Miusov s'arrêtèrent. Le moine les salua avec une grande politesse et leur dit « Messieurs, le père abbé vous invite tous à déjeuner après votre visite à l'ermitage. C'est pour une heure exactement. Vous aussi, » fit-il à Maximov. J'irai, s'écria Fiodor Pavlovitch, ravi de l'invitation. Je n'aurai garde d'y manquer. Vous savez que nous avons tous promis de nous conduire décemment. Et vous, Piotr Alexandrovitch, viendrez-vous?
Certainement.
Pourquoi suis-je ici, sinon pour observer leurs usages? Une seule chose m'embarrasse, Fiodor Pavlovitch, c'est de me trouver en votre compagnie. Oui, Dmitri Fiodorovitch n'est pas encore là. Il ferait bien de ne pas venir du tout. Croyez-vous que cela m'amuse, votre histoire et vous par-dessus le marché? Nous viendrons déjeuner. Remerciez le père abbé, dit-il au moine. « Pardon, je dois vous conduire chez le staré, » répondit celui-ci. « Dans ce cas, je vais directement chez le père abbé. Oui, je m'en vais pendant ce temps chez le père abbé, » gazouilla Maximov. « Le père abbé est très occupé en ce moment, mais ce sera comme vous voudrez, » fit le moine perplexe.
« Quel crampon que ce vieux !» observa Miusov lorsque Maximov fut retourné au monastère.
« Il ressemble à Vonson, » prononça tout à coup Fiodor Pavlovitch. « C'est tout ce que vous trouvez à dire. En quoi ressemble-t-il à Vonson? Vous-même, l'avez-vous vu ?»«
J'ai vu sa photographie. Bien que les traits ne soient pas identiques, il y a quelque chose d'indéfinissable. C'est tout à fait le sosie de Vonson. Je le reconnais rien qu'à la physionomie. »«
C'est possible. Vous vous y connaissez. Toutefois... « Fiodor Pavlovitch, vous venez de rappeler que nous avons promis de nous conduire décemment, souvenez-vous-en. Je vous le dis, surveillez-vous. Si vous commencez à faire le bouffon, je ne veux pas qu'on me mette dans le même panier que vous. »«
Voyez quel homme c'est, » dit-il en s'adressant au moine. « J'ai peur d'aller avec lui chez des gens convenables. »
Un pâle sourire, non dépourvu de ruse, apparut sur les lèvres exsangues du moine, qui pourtant ne répondit rien, laissant voir clairement qu'il se taisait par conscience de sa propre dignité. Miusov fronça encore davantage le sourcil.
« Oh, que le diable les emporte tous, ces gens à l'extérieur, façonnés par les siècles, dont le fond n'est que charlatanisme et absurdité !» se disait-il en lui-même. « Voici l'ermitage, nous sommes arrivés !» cria Fiodor Pavlovitch, qui se mit à faire de grands signes de croix devant les saints, peints au-dessus et à côté du portail.
« Chacun vit comme il lui plaît, » insinua-t-il.
« Et le proverbe russe dit avec raison, « Un moine d'un autre ordre, point n'impose ta règle. » Il y a ici 25 bons pères qui font leur salut en se contemplant les uns les autres et en mangeant des choux. Ce qui me surprend, c'est qu'aucune femme ne franchisse ce portail. Cependant, j'ai entendu dire que le staré recevait des dames.
Est-ce exact ? Demanda-t-il au moine.
Les femmes du peuple l'attendent là-bas, près de la galerie. Tenez, en voici d'assises par terre. Pour les dames de la société, on a aménagé deux chambres dans la galerie même, mais en dehors de l'enceinte. Ce sont ces fenêtres que vous voyez là. Le staré s'y rend par un passage intérieur, quand sa santé le lui permet. Il y a en ce moment une dame, Koklakov, propriétaire à Kharkov, qui veut le consulter pour sa fille atteinte de consomption. Il a dû lui promettre de venir, bien que ces derniers temps il soit très faible et ne se montre guère. Il y a donc à l'ermitage une porte entrebâillée du côté des dames. Oh, n'y soit qui mal y pense, mon père. Au mont Athos, vous devez le savoir, non seulement les visites féminines ne sont pas admises, mais on ne tolère aucune femme, ni femelle, ni poule, ni dinde, ni génisse. Fiodor Pavlovitch, je vous laisse. On va vous mettre à la porte, c'est moi qui vous le prédis. En quoi est-ce que je vous gêne, Piotr Alexandrovitch? Regardez donc, s'exclama-t-il soudain, une fois l'enceinte franchie. Regardez dans quelle vallée de roses ils habitent. Effectivement, bien qu'il n'y eût pas alors de roses, on apercevait une profusion de fleurs d'automne, magnifiques et rares. Une main expérimentée devait en prendre soin. Il y avait des parterres autour des églises et entre les tombes. Des fleurs aussi entouraient la maisonnette en bois, un rez-de-chaussée précédé d'une galerie où se trouvait la cellule du staret. En était-il de même du temps du précédent staré, Barzanuf? On dit qu'il n'aimait pas l'élégance, qu'il s'emportait et battait même les dames à coups de canne. S'enquit Fiodor Pavlovitch en montant le perron. Si le staré Barzanuf paraissait parfois avoir perdu la raison, on raconte aussi bien des sottises sur son compte. Il n'a jamais battu personne à coups de canne, répondit le moine. « Maintenant, messieurs, une minute, je vais vous annoncer. » Fiodor Pavlovitch, pour la dernière fois, rappelez-vous nos conditions. Comportez-vous bien, sinon, gare à vous !» murmura encore une fois Miousov. « Je voudrais bien savoir ce qui vous émeut pareillement, » insinua Fiodor Pavlovitch, railleur. « Ce sont vos péchés qui vous effraient? On dit que rien qu'au regard, ils devinent à qui il a affaire. » Mais comment pouvez-vous faire un tel cas de leur opinion, vous, un Parisien, un progressiste? Vous me stupéfiez vraiment. Miousov n'eut pas le loisir de répondre à ce sarcasme, car on les pria d'entrer. Il éprouva une légère irritation. Eh bien, je le sais d'avance. Énervé comme je suis, je vais discuter, m'échauffer, m'abaisser, moi et mes idées. Se dit-il. Chapitre 2. Un vieux bouffon. Ils entrèrent presque en même temps que le staré, qui, dès leur arrivée, était sorti de sa chambre à coucher. Ils avaient été précédés dans la cellule par deux religieux de l'ermitage. L'un était le père bibliothécaire, l'autre le père Païsius, maladif, malgré son âge peu avancé, mais érudit à ce qu'on disait. Il s'y trouvait encore un jeune homme en redingote, qui paraissait âgé de 22 ans. C'était un ancien élève du séminaire, futur théologien, que protégeait le monastère. Il avait la taille assez élevée, le visage frais, les pommettes saillantes, de petits yeux bruns et vifs. Son visage exprimait la déférence, mais sans obséquiosité. Il ne fit pas de salut aux visiteurs, se considérant non comme leur égal, mais comme un subalterne, et demeura debout pendant toute l'entrevue. Le staré Zosime parut, en compagnie d'un novice et d'Alyosha. Les religieux se levèrent, lui firent une profonde révérence, les doigts touchant la terre, reçurent sa bénédiction et lui baisèrent la main. À chacun d'eux, le staré répondit par une révérence pareille, les doigts touchant la terre, leur demandant à son tour leur bénédiction. Cette cérémonie, empreinte d'un grand sérieux et n'ayant rien de l'étiquette banale, respirait une sorte d'émotion. Cependant, Miousov, qui se tenait en avant de ses compagnons, la crut préméditée. Quelles que fussent ses idées, la simple politesse exigeait qu'il s'approchât du staré pour recevoir sa bénédiction, sinon pour lui baiser la main. Il s'y était décidé la veille, mais les révérences et les baisers des moines changèrent sa résolution. Il fit une révérence grave et digne en homme du monde et alla s'asseoir. Fiodor Pavlovitch fit la même chose, contrefaisant cette fois-ci Miousov comme un singe. Le salut d'Ivan Fiodorovitch fut des plus courtois, mais lui aussi tint ses bras le long des hanches. Quant à Kalganov, telle était sa confusion qu'il oublia même de saluer. Le staré laissa retomber sa main prête à les bénir et les invita tous à s'asseoir. Le sang vint aux joues d'Alyosha. Il avait honte, ses mauvais pressentiments se réalisaient. Le staré prit place sur un petit divan de cuir, meuble fort ancien, et fit asseoir ses hôtes en face de lui, sur quatre chaises d'acajou, recouvertes d'un cuir fort usé. Les religieux s'installèrent de côté, l'un à la porte, l'autre à la fenêtre. Le séminariste, Alyosha et le novice restèrent debout. La cellule n'était guère vaste et avait l'air fané. Elle ne contenait que quelques meubles et objets grossiers, pauvres, le strict nécessaire. Deux pots de fleurs à la fenêtre. Dans un angle, de nombreuses icônes, dont l'une représentait une vierge de grande dimension, peinte probablement longtemps avant le Raskol. Une lampe brûlait devant elle. Non loin, deux autres icônes aux revêtements étincelants, puis deux chérubins sculptés. De petits œufs en porcelaine, un crucifix en ivoire, avec une mater dolorosa qui l'étreignait, et quelques gravures étrangères, reproductions de grands peintres italiens des siècles passés. Auprès de ces œuvres de prix s'étalaient des lithographies russes à l'usage du peuple, portraits de saints, de martyrs, de prélats, qui se vendent quelques copecs dans toutes les foires. Miousov jeta un coup d'œil rapide sur cette imagerie, puis examina le staré. Il se croyait le regard pénétrant, faiblesse excusable, si l'on considère qu'il avait déjà 50 ans, âge où un homme du monde intelligent et riche se prend davantage au sérieux, parfois même à son insu. Dès l'abord, le staré lui déplut. Il y avait effectivement dans sa figure quelque chose qui eût paru choquant à bien d'autres qu'à Miousov. C'était un petit homme voûté, les jambes très faibles, âgé de 65 ans seulement, mais qui paraissait 10 ans de plus à cause de sa maladie. Tout son visage, d'ailleurs fort sec, était sillonné de petites rides, surtout autour des yeux, qu'il avait clairs, pas très grands, vifs et brillants comme deux points lumineux. Il ne lui restait que quelques touffes de cheveux gris sur les tempes. Sa barbe, petite et clairsemée, finissait en pointe. Les lèvres, minces comme deux lanières, souriaient fréquemment. Le nez aigu rappelait un oiseau. Selon toute apparence, une âme malveillante, mesquine, présomptueuse, pensa Miousov, qui se sentait fort mécontent de lui. Une petite horloge à poids frappa 12 coups, cela rompit la glace. « C'est l'heure exacte !» s'écria Fiodor Pavlovitch. « Et mon fils, Dmitri Fiodorovitch, qui n'est pas encore là. Je m'excuse pour lui, s'instarrer. » Alyosha tressaillit à ces mots de « s'instarrer ».« Je suis toujours ponctuel, à 1 minute près, me rappelant que l'exactitude est la politesse des rois. » « Vous n'êtes pas roi, que je sache, » marmotta Miousov, incapable de se contenir. « C'est ma foi vrai. Et figurez-vous, Piotr Alexandrovitch, que je le savais, ma parole. Que voulez-vous? Je parle toujours mal à propos. »« Votre révérence, » s'exclama-t-il soudain d'un ton pathétique, « vous avez devant vous un véritable bouffon. C'est ma façon de me présenter. Une vieille habitude, hélas. » Si je hâble parfois hors de saison, c'est à dessein, dans l'intention de faire rire et d'être agréable. Il faut être agréable, n'est-il pas vrai? Il y a 7 ans, j'arrivais dans une petite ville pour de petites affaires, de compte à demi avec de petits marchands. Nous allons chez Lise Pravnik, à qui nous avions quelque chose à demander et que nous voulions inviter à une collation. Lise Pravnik paraît. C'était un homme de haute taille, gros, blond et morose. Les individus les plus dangereux en pareil cas, car la bile les tourmente. Je l'aborde avec l'aisance d'un homme du monde. « Monsieur Lise Pravnik, fis-je, vous serez pour ainsi dire notre Napravnik. »«
Quel Napravnik ? » dit-il.
Je vis immédiatement que ça ne prenait pas, qu'il demeurait grave. Je m'obstinais. J'ai voulu plaisanter, rendre tout le monde gai, car monsieur Napravnik est un chef d'orchestre connu. Or, pour l'harmonie de notre entreprise, il nous faut justement une sorte de chef d'orchestre. L'explication et la comparaison étaient raisonnables, n'est-ce pas?
Pardon, dit-il, je suis Ipravnik, et je ne permets pas qu'on fasse des calembours sur ma profession. Il nous tourna le dos. Je courus après lui en criant « Oui, oui, vous êtes Ispravnik et non Napravnik. »
« Non, répliqua-t-il, vous l'avez dit, je suis Napravnik. » Figurez-vous que cela fit manquer notre affaire. Je n'en fais jamais d'autre. Je me cause du tort par mon amabilité. Une fois, il y a bien des années, je disais à un personnage important « Votre épouse est une femme chatouilleuse. » Dans le sens de l'honneur, des qualités morales, pour ainsi dire. À quoi il me répliqua « Vous l'avez chatouillé ?» Je ne pus y tenir. « Faisons l'aimable, pensais-je. »«
Oui, dis-je, je l'ai chatouillé. »
Mais alors, ce fut lui qui me chatouilla. Il y a longtemps que c'est arrivé, aussi n'ai-je pas honte de le raconter. C'est toujours ainsi que je me fais du tort.
« Vous vous en faites en ce moment, » murmura Miousov avec dégoût. Le staré les considérait en silence l'un et l'autre.
« Vraiment, figurez-vous que je le savais, Piotr Alexandrovitch, et même apprenez que je le pressentais, ce que je fais, dès que j'ouvris la bouche, et même, apprenez-le, je pressentais que vous m'en feriez le premier la remarque. À ces moments, quand je vois que ma plaisanterie ne réussit pas, votre révérence, mes joues commencent à se dessécher vers les gencives. J'ai comme une convulsion. Cela remonte à ma jeunesse, alors que, parasite chez les nobles, je gagnais mon pain par cette industrie. Je suis un bouffon authentique, inné, votre révérence. La même chose qu'un innocent. Je ne nie pas qu'un esprit impur habite peut-être en moi. Bien modeste, en tout cas. Plus considérable, il se fût logé ailleurs. Seulement pas chez vous, Piotr Alexandrovitch, car vous n'êtes pas considérable. En revanche, je crois en Dieu. Ces derniers temps, j'avais des doutes, mais maintenant, j'attends de sublimes paroles. Je ressemble au philosophe Diderot, votre révérence. Savez-vous, très saint père, comme il se présenta chez le métropolite Platon sous l'impératrice Catherine? Il entre et dit d'emblée « Il n'y a point de Dieu ». À quoi le grand prélat répond le doigt levé. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Aussitôt, Diderot de se jeter à ses pieds. Je crois, s'écrie-t-il, et je veux être baptisé. On le baptisa sur le champ. La princesse Dashkov fut la marraine et Potemkin le parrain.
Fyodor Pavlovitch, c'est intolérable! « Vous savez fort bien que vous mentez et que cette stupide anecdote est fausse. Pourquoi faire le malin ?»
proféra d'une voix tremblante Miousov, qui ne pouvait déjà plus se contenir.
« J'ai pressenti toute ma vie que c'était un mensonge !» s'exclama Fyodor Pavlovitch en s'emballant.
« En revanche, messieurs, je vais vous dire toute la vérité. « Éminence tarée, pardonnez-moi, j'ai inventé la fin, le baptême de Diderot. Cela ne m'était jamais venu à l'esprit auparavant. Je l'ai inventé pour donner du piquant. Si je fais le malin, Piotr Alexandrovitch, c'est pour être plus gentil. Au reste, parfois, je ne sais pas moi-même pourquoi. Quant à Diderot, j'ai entendu raconter cela. L'insensé a dit, une vingtaine de fois dans ma jeunesse par les propriétaires fonciers du pays quand j'habitais chez eux. Je l'ai entendu dire, Piotr Alexandrovitch, à votre tante, Mavra Fominichna. Jusqu'à maintenant, tous sont persuadés que l'impie Hydro a fait visite au métropolite Platon pour discuter de Dieu. Miousov s'est élevé à bout de patience et comme hors de lui. Il était furieux et comprenait que sa fureur le rendit ridicule. Ce qui se passait dans la cellule était vraiment intolérable. Depuis 40 ou 50 ans que des visiteurs s'y réunissaient, c'était toujours avec la plus profonde vénération. Presque tous ceux qui étaient admis comprenaient qu'on leur accordait une insigne faveur. Beaucoup parmi eux se mettaient à genoux et le demeuraient durant toute la visite. Des gens d'un rang élevé, des érudits et même des libres penseurs, venus soit par curiosité, soit pour un autre motif, se faisaient un devoir de témoigner au staré une profonde déférence et de grands égards durant tout l'entretien, qu'il fût public ou privé, d'autant plus qu'il n'était pas question d'argent. Il n'y avait que l'amour et la bonté, en présence du repentir et de la soif de résoudre un problème moral compliqué, une crise de la vie du cœur. Aussi, les bouffonneries auxquelles s'était livré Fiodor Pavlovitch, choquantes en un tel lieu, avaient-elles provoqué l'embarras et l'étonnement des témoins, de plusieurs d'entre eux en tout cas. Les religieux, demeurés impassibles, fixaient leur attention sur ce qu'allait dire le staré, mais paraissaient déjà prêts à se lever, comme Miousov. Alyosha avait envie de pleurer et courbait la tête. Tout son espoir reposait sur son frère Ivan, le seul dont l'influence fut capable d'arrêter son père, et il était stupéfait de le voir assis, immobile, les yeux baissés, attendant avec curiosité le dénouement de cette scène, comme s'il y était complètement étranger. Alyosha n'osait pas regarder Rakitin, le séminariste, avec lequel il vivait presque sur un pied d'intimité. Il connaissait ses pensées. Il était d'ailleurs seul à les connaître dans tout le monastère. « Excusez-moi, » commença Miousov en s'adressant au staré, « d'avoir l'air de prendre part à cette indigne plaisanterie. J'ai eu tort de croire que même un individu tel que Fiodor Pavlovitch saurait se tenir à sa place chez un personnage aussi respectable. Je ne pensais pas qu'il faudrait m'excuser d'être venu avec lui. » Piotr Alexandrovitch n'acheva pas, et, tout confus, voulait déjà sortir de la chambre. « Ne vous inquiétez pas, je vous en prie, » dit le staré en se dressant sur ses pieds débiles. Et prenant Piotr Alexandrovitch par les deux mains, il l'obligea à se rasseoir. « Calmez-vous, je vous en prie, vous êtes mon hôte. » Cela dit, et après une révérence, il retourna s'asseoir sur le divan. « Éminent staré, dites-moi, est-ce que ma vivacité vous offense ?» s'exclama soudain Fiodor Pavlovitch, en se cramponnant des deux mains au bras du fauteuil, comme prêt à en bondir suivant la réponse qui lui serait faite. « Je vous supplie également de ne pas vous inquiéter et de ne pas vous gêner, » prononça le staré avec majesté. « Ne vous gênez pas, soyez tout à fait comme chez vous. Surtout, n'ayez pas tant honte de vous-même, car tout le mal vient de là. » « Tout à fait comme chez moi ? C'est-à-dire au naturel ? Oh, c'est trop, c'est beaucoup trop, mais j'accepte avec attendrissement. Savez-vous, mon vénéré père, ne me poussez pas à me montrer au naturel, c'est trop risqué. Je n'irai pas moi-même jusque-là. Ce que je vous en dis, c'est pour vous mettre en garde. La suite est encore enfouie dans les ténèbres de l'inconnu, bien que certains voulussent déjà me faire la leçon. « Ceci est à votre adresse, Piotr Alexandrovitch. À vous, sainte créature, voici ce que je déclare. Je déborde d'enthousiasme. » Il se leva et, les bras en l'air, proféra. « Béni soit le ventre qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Les mamelles, surtout. » Par votre remarque tout à l'heure, N'ayez pas tant honte de vous-même, car tout le mal vient de là. Vous m'avez comme transpercé. Vous avez lu en moi. En effet, quand je vais vers les gens, il me semble que je suis le plus vil de tous, et que tout le monde me prend pour un bouffon. Alors je me dis, faisons le bouffon. Je ne crains pas votre opinion, car vous êtes tous, jusqu'au dernier, plus vil que moi. Voilà pourquoi je suis bouffon. Par honte, éminent père, par honte. Ce n'est que par timidité que je fais le crâne. Car si j'étais sûr, en entrant, que tous m'accueillent comme un être sympathique et raisonnable. Dieu, que je serais bon, maître. Il se mit soudain à genoux. Que faut-il faire pour gagner la vie éternelle? Même alors, il était difficile de savoir s'il plaisantait ou cédait à l'attendrissement. Le staré leva les yeux vers lui et prononça en souriant. Il y a longtemps que vous-même savez ce qu'il faut faire. Vous ne manquez pas de sens. Ne vous adonnez pas à la boisson et à l'intempérance de langage. Ne vous adonnez pas à la sensualité, surtout à l'amour de l'argent. Et fermez vos débits de boisson, au moins 2 ou 3, si vous ne pouvez pas les fermer tous. Mais surtout, avant tout, ne mentez pas. C'est à propos de Diderot que vous dites cela? Non, ce n'est pas à propos de Diderot. Surtout, ne vous mentez pas à vous-même. Celui qui se ment à soi-même et écoute son propre mensonge va jusqu'à ne plus distinguer la vérité, ni en soi, ni autour de soi. Il perd donc le respect de soi et des autres. Ne respectant personne, il cesse d'aimer. Et pour s'occuper et se distraire, en l'absence d'amour, il s'adonne aux passions et aux grossières jouissances. Il va jusqu'à la bestialité dans ses vices. Et tout cela provient du mensonge continuel à soi-même et aux autres. Celui qui se ment à soi-même peut être le premier à s'offenser. On éprouve parfois du plaisir à s'offenser, n'est-ce pas? Un individu sait que personne ne l'a offensé, mais qu'il s'est lui-même forgé une offense, noircissant à plaisir le tableau. Qu'il s'est attaché à un mot et a fait d'un monticule une montagne. Il le sait, pourtant il est le premier à s'offenser, jusqu'à en éprouver une grande satisfaction. Par là même, il parvient à la véritable haine. Mais levez-vous, asseyez-vous, je vous en conjure. Cela, c'est aussi un geste faux. Bienheureux, laissez-moi vous baiser la main. Fiodor Pavlovitch se redressa et posa les lèvres sur la main décharnée du staré. Vous avez raison, ça fait plaisir de s'offenser. Je n'avais jamais si bien entendu exprimer cela. Oui, oui, j'ai pris plaisir toute ma vie aux offenses, pour l'esthétique. Car être offensé, non seulement ça fait plaisir, mais parfois c'est beau. Voilà ce que vous avez oublié, éminent staré, la beauté. Je le noterai dans mon carnet. Quant à mentir, je n'ai fait que cela toute ma vie, à chaque jour et à chaque heure. En vérité, je suis mensonge et père du mensonge. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas le père du mensonge, je m'embrouille dans les textes. Eh bien, disons, le fils du mensonge, cela suffit. Seulement, mon ange, on peut parfois broder sur Diderot, cela ne fait pas de mal, alors que certaines paroles peuvent faire du mal. Éminent staré, à propos, je me rappelle, il y a 3 ans, je m'étais promis de venir ici me renseigner et découvrir avec insistance la vérité. Priez seulement Piotr Alexandrovitch de ne pas m'interrompre. Voici de quoi il s'agit. Est-ce vrai, mon révérend père, ce qu'on raconte quelque part, dans les Ménées, d'un saint thaumaturge qui subit le martyre pour la foi, et après avoir été décapité, releva sa tête et, en la baisant gentiment, la porta longtemps dans ses bras? Est-ce vrai ou non, mes pères? Non, ce n'est pas vrai, dit le staré. Il n'y a rien de semblable dans aucun menet. À propos de quel saint dites-vous que ce fait est rapporté? Demanda le père bibliothécaire. J'ignore lequel, je n'en ai pas connaissance. On m'a induit en erreur. Je l'ai entendu dire, et savez-vous par qui? par ce même Piotr Alexandrovitch Miusov qui vient de se fâcher à propos de Diderot.
Je ne vous ai jamais raconté cela, pour la bonne raison que je ne cause jamais avec vous.
Il est vrai que vous ne l'avez pas raconté à moi personnellement, mais dans une société où je me trouvais il y a 4 ans.
Si j'ai rappelé le fait, c'est que vous avez ébranlé ma foi par ce récit comique, Piotr Alexandrovitch.
Vous l'ignorez, mais je suis revenu chez moi à la fois ébranlé, et depuis, je chancelle toujours davantage.
Oui, Piotr Alexandrovitch, vous avez été cause d'une grande chute.
C'est bien autre chose que Diderot.
Fiodor Pavlovitch s'échauffait d'une façon pathétique, bien qu'il fût évident pour tous qu'il se donnait de nouveau en spectacle. Mais Miusov était piqué au vif.
« Quelle absurdité, comme tout le reste d'ailleurs » murmura-t-il. « Si j'ai dit cela, ce n'est certes pas à vous.
En fait, j'ai entendu à Paris un Français raconter qu'on lit chez nous cet épisode à la messe dans les menées. C'est un érudit qui a spécialement étudié la statistique de la Russie, où il y a longtemps séjourné. Quant à moi, je n'ai pas lu les menées et je ne les lirai pas.
Que ne dit-on pas à table ? Et nous dînions alors.
Oui, vous dîniez alors, et moi j'ai perdu la foi,
dit pour le taquiner Fiodor Pavlovitch.
Mais que m'importe votre foi ?
Allait crier Miusov. Mais il se contint et proféra avec mépris.
Vous souillez littéralement tout ce que vous touchez.
Le staré se leva soudain. « Excusez-moi, messieurs, de vous laisser seuls quelques instants, » dit-il en s'adressant à tous les visiteurs. « Mais on m'attendait dès avant votre arrivée. Quant à vous, abstenez-vous de mentir, » ajouta-t-il d'un ton plaisant à l'adresse de Fiodor Pavlovitch. Il quitta la cellule. Alyosha et le novice s'élancèrent pour l'aider à descendre l'escalier. Alyosha étouffait. Il était heureux de sortir, heureux également de voir le staré gai et non enfoncé. Le staré se dirigeait vers la galerie pour bénir celle qui l'attendait, mais Fiodor Pavlovitch l'arrêta à la porte de la cellule.
« Bienheureux ! » s'exclama-t-il avec sentiment. « Permettez-moi de vous baiser encore une fois la main. Avec vous, on peut causer, on peut vivre. » Vous pensez peut-être que je mens sans cesse et que je fais toujours le bouffon. C'était pour me rendre compte si l'on peut vivre avec vous, s'il y a place pour mon humilité à côté de votre fierté. Je vous délivre un certificat de sociabilité. Maintenant, je ne soufflerai plus mot. Je vais m'asseoir et garder le silence. Maintenant, à vous de parler, Piotr Alexandrovitch. Vous demeurez le personnage principal pour 10 minutes.
Chapitre 3. Les femmes croyantes. Au bas de la galerie en bois pratiquée vers le mur extérieur de l'enceinte, se pressait une 20aine de femmes du peuple. On les avait prévenues que le staré allait enfin sortir, et elles s'étaient groupées en l'attendant. Les dames Koklakov attendaient également, mais dans une chambre de la galerie, réservée aux visiteuses de qualité. Elles étaient deux, la mère et la fille. La première, riche propriétaire, toujours habillée avec goût, était encore assez jeune et d'extérieur fort agréable, avec des yeux vifs et presque noirs. Elle n'avait que 33 ans et était veuve depuis 5 ans. Sa fille, âgée de 14 ans, avait les jambes paralysées. La pauvre fillette ne marchait plus depuis 6 mois. On la transportait dans une chaise longue à roulettes. Elle avait un délicieux visage, un peu amaigri par la maladie, mais gai. Des lueurs folâtres brillaient dans ses grands yeux sombres, qu'ombrageaient de longs cils. Depuis le printemps, la mère se disposait à l'emmener à l'étranger, mais des travaux entrepris dans leur domaine les avaient retardés. Elle séjournait depuis 8 jours dans notre ville, plus pour affaires que par dévotion. Néanmoins, elles avaient déjà rendu visite au staré 3 jours auparavant. Elles étaient revenues encore une fois. Et tout en sachant que le staré ne pouvait presque plus recevoir personne, elles suppliaient qu'on leur accordât
le bonheur de voir le grand guérisseur. En attendant sa venue, la mère était assise à côté du fauteuil de sa fille. À deux pas se tenait debout un vieux moine, venu d'un lointain monastère du Nord et qui désirait recevoir la bénédiction du Staret. Mais celui-ci, apparu sur la galerie, alla droit au peuple. La foule se pressait autour du perron de trois marches qui réunissait la galerie basse au sol. Le Staret s'arrêta sur la marche supérieure, revêtit l'étole et bénit les femmes qui l'entouraient. On lui amena une possédée qu'on tenait par les deux mains. Dès qu'elle aperçut le Staret, elle fut prise d'un hoquet, poussant des gémissements et secouée par des spasmes comme dans une crise éclamptique. Lui ayant recouvert la tête de l'étole, le Staret prononça sur elle une courte prière, et elle s'apaisa aussitôt. J'ignore ce qui se passe maintenant, mais dans mon enfance, j'eus souvent l'occasion de voir et d'entendre ces possédés dans les villages et les monastères. Amenées à la messe, elles glapissaient et aboyaient dans l'église, mais quand on apportait le Saint-Sacrement et qu'elles s'en approchaient, la crise démoniaque cessait aussitôt, et les malades s'apaisaient toujours pour un certain temps. Encore enfant, cela m'étonnait et me surprenait fort. J'entendais alors certains propriétaires fonciers, et surtout des instituteurs de la ville, répondre à mes questions que c'était une simulation pour ne pas travailler, et que l'on pouvait toujours la réprimer en se montrant sévère. On citait à l'appui diverses anecdotes. Par la suite, j'appris avec étonnement, de médecins spécialistes, qu'il n'y avait là aucune simulation, que c'était une terrible maladie des femmes, attestant, plus particulièrement en Russie, la dure condition de nos paysannes. Elles provenaient de travaux accablants, exécutés trop tôt après des couches laborieuses, mal effectuées sans aucune aide médicale. En outre, du désespoir, des mauvais traitements, etc. Ce que certaines natures féminines ne peuvent endurer, malgré l'exemple général. La guérison étrange et subite d'une possédée en proie aux convulsions, dès qu'on l'approchait des saintes espèces, guérison attribuée alors à la simulation, et, de plus, à un truc employé pour ainsi dire par les cléricaux eux-mêmes, s'effectuait probablement aussi de la façon la plus naturelle. Les femmes qui conduisaient la malade, et surtout elles-mêmes, étaient persuadées, comme d'une vérité évidente, que l'esprit impur qui la possédait ne pourrait jamais résister à la présence du Saint-Sacrement devant lequel on inclinait la malheureuse. Aussi, chez une femme nerveuse, atteinte d'une affection psychique, il se produisait toujours, et cela devait être, comme un ébranlement nerveux de tout l'organisme, ébranlement causé par l'attente du miracle de la guérison et par la foi absolue en son accomplissement. Et il s'accomplissait, ne fût-ce que pour une minute. C'est ce qui eut lieu dès que le Staret eut recouvert la malade de l'étole. Beaucoup de femmes qui se pressaient autour de lui versaient des larmes d'attendrissement et d'enthousiasme. D'autres s'élançaient pour baiser ne fût-ce que le bord de son habit. Quelques-unes se lamentaient. Il les bénissait toutes et conversait avec elles. Il connaissait déjà la possédée, qui habitait un village à une lieue et demie du monastère. Ce n'était pas la première fois qu'on la lui amenait. « En voilà une qui vient de loin, » dit-il en désignant une femme encore jeune, mais très maigre et défaite, le visage plutôt noirci que hâlé. Elle était à genoux et fixait le Staret d'un regard immobile. Son regard avait quelque chose d'égaré. « Je viens de loin, mon père, de loin, à 300 verstes d'ici. De loin, mon père, de loin !» répéta la femme comme un refrain, balançant la tête de droite à gauche, la joue appuyée sur la paume de sa main. Elle parlait comme en se lamentant. Il y a dans le peuple une douleur silencieuse et patiente. Elle rentre en elle-même et se tait. Mais il y en a une autre qui éclate Elle se manifeste par les larmes et se répand en lamentations, surtout chez les femmes. Elle n'est pas plus légère que la douleur silencieuse. Les lamentations n'apaisent qu'en rongeant et en déchirant le cœur. Une pareille douleur ne veut pas de consolation. Elle se repaît de l'idée d'être inextinguible. Les lamentations ne sont que le besoin d'irriter davantage la plaie. « Vous êtes citadine, sans doute ?» continua le staré en la regardant avec curiosité. « Nous habitons la ville, mon père. Nous sommes de la campagne, mais nous demeurons en ville. Je suis venue pour te voir. Nous avons entendu parler de toi, mon père. J'ai enterré mon tout jeune fils. J'allais prier Dieu. J'ai été dans 3 monastères, et on m'a dit « Va aussi là-bas, Nastasiushka. » C'est-à-dire vers vous, mon père, vers vous. Je suis venu. J'étais hier soir à l'église, et me voilà. Pourquoi pleures-tu? Je pleure mon fils. Il était dans sa 3e année. Il ne lui manquait que 3 mois. C'est à cause de lui que je me tourmente. C'était le dernier. Nikitushka et moi, nous en avons eu 4. Mais les enfants ne restent pas chez nous, bien-aimés. Ils ne restent pas. J'ai enterré les 3 premiers. Je n'avais pas tant de chagrin, mais ce dernier, je ne puis l'oublier. C'est comme s'il était là devant moi. Il ne s'en va pas. J'en ai l'âme desséchée. Je regarde son linge, sa petite chemise, ses bottines, et je sanglote. J'étale tout ce qui est resté après lui, chaque chose. Je regarde et je pleure. Je dis à Nikitushka, mon mari, « Hé, le maître, laisse-moi aller en pèlerinage. » Il est cocher. « Nous avons de quoi, mon père, nous avons de quoi. Nous sommes à notre compte. Tout est à nous, les chevaux et les voitures. Mais à quoi bon maintenant tout ce bien? Mon Nikitushka a dû se mettre à boire sans moi, c'est sûr. Et déjà, auparavant, dès que je m'éloignais, il faiblissait. Mais maintenant, je ne pense plus à lui. Voilà 3 mois que j'ai quitté la maison. » J'ai tout oublié. Je ne veux plus me rappeler. Que ferais-je de lui maintenant? J'ai fini avec lui et avec tous les autres. Et à présent, je ne voudrais pas avoir ma maison et mon bien, et je préférerais même avoir perdu la vue. « Écoute, mère, proféra le staré. Un grand saint d'autrefois aperçut dans le temple une mère qui pleurait comme toi. Aussi à cause de son fils unique, que le Seigneur avait également rappelé à lui. « Ne sais-tu pas, lui dit le saint, comme ces enfantelés sont hardis devant le trône de Dieu? Il n'y a même personne de plus hardi dans le royaume des cieux. « Seigneur, tu nous as donné la vie, disent-ils à Dieu, mais à peine avions-nous vu le jour que tu nous l'as reprise. » Il demande et réclame si hardiment que le Seigneur en fait aussitôt des anges. C'est pourquoi, dit le saint, réjouis-toi et ne pleure pas. Ton enfant est maintenant chez le Seigneur, dans le cœur des anges. Voilà ce que dit dans les temps anciens le saint à la femme qui pleurait. C'était un grand saint, et il ne pouvait rien lui dire qui ne fût vrai. Sache donc, mère, que ton enfant aussi se tient certainement devant le trône du Seigneur, se réjouit, se divertit et prie Dieu pour toi. Tu peux pleurer, mais réjouis-toi. » La femme l'écoutait, la joue dans la main, inclinée. Elle soupira profondément. « C'est de la même manière que Nikitushka me consolait. « Tu n'es pas raisonnable, pourquoi pleurer? Notre fils, bien sûr, chante maintenant avec les anges auprès du Seigneur. » Et tandis qu'il me disait cela, je le voyais pleurer, et je lui disais à mon tour, « Eh oui, je le sais bien, où serait-il sinon chez le Seigneur? Seulement il n'est plus ici avec nous en ce moment, tout près comme il restait autrefois. Oh, si je pouvais le revoir une fois, rien qu'une fois, sans m'approcher de lui, sans parler, en me cachant dans un coin. Seulement le voir une minute, l'entendre jouer dehors. Venir, comme il le faisait parfois, crier de sa petite voix. « Maman, où es-tu ? » Si je pouvais entendre ses petits pieds trotter dans la chambre. bien souvent, je me rappelle. Il courait à moi avec des cris et des rires. Si seulement je l'entendais. Mais il n'est plus là, mon père, et je ne l'entendrai plus jamais. Voilà sa ceinture, mais il n'est plus là, et c'est fini pour toujours. » Elle tira de son sein la petite ceinture en passementerie de son garçon. Dès qu'elle l'eut regardée, elle fut secouée de sanglots, cachant ses yeux avec ses doigts à travers lesquels coulaient des torrents de larmes.
« Eh ! » proféra le staré. « Cela, c'est l'antique !»
Rachel, pleurant ses enfants sans pouvoir être consolée, car ils ne sont plus. «
Tel est le sort qui vous est assigné en ce monde, ô mère. Ne te console pas, il ne faut pas te consoler. Pleure, mais chaque fois que tu pleures, rappelle-toi que ton fils est un des anges de Dieu, que de là-haut il te regarde et te voit, qu'il se réjouit de tes larmes et les montre au Seigneur. Longtemps encore, tes pleurs maternels couleront, mais enfin ils deviendront une joie paisible. Tes larmes amères seront des larmes d'attendrissement et de purification, laquelle sauve du péché. Je prierai pour le repos de l'âme de ton fils. Comment s'appelait-il ?
Alexeï, mon père.
C'est un beau nom. Il avait pour saint patron Alexeï, homme de Dieu.
Oui, mon père, Alexeï, homme de Dieu.
Quel grand saint ! Je prierai pour lui, mère. Je n'oublierai pas ton affliction dans mes prières. Je prierai aussi pour la santé de ton mari. Mais c'est un péché de l'abandonner. Retourne vers lui. Prends-en bien soin. De là-haut, ton fils voit que tu as abandonné son père et pleure sur vous. Pourquoi troubler sa béatitude ? Il vit, car l'âme vit éternellement. Il n'est pas dans la maison, mais il se trouve tout près de vous, invisible. Comment viendra-t-il si tu dis que tu détestes ta demeure ? Vers qui viendra-t-il s'il ne vous trouve pas à la maison, s'il ne vous trouve pas ensemble, le père et la mère ? Il t'apparaît maintenant, et tu es tourmenté. Alors il t'enverra de doux songes. Retourne vers ton mari, mère, et dès aujourd'hui.
J'irai, bien-aimé, selon ta parole. Tu as lu dans mon cœur. Nikitushka, tu m'attends, mon chéri, tu m'attends. »
Commençait à se lamenter la femme. Mais le staré se tournait déjà vers une petite vieille, habillée non en pérégrine, mais en citadine. On voyait à ses yeux qu'elle avait une communication à faire. C'était la veuve d'un sous-officier, habitante de notre ville. Son fils, Vassili, employé dans un commissariat, était parti pour Irkoutsk, en Sibérie. Il lui avait écrit deux fois. Mais depuis un an, il ne donnait plus signe de vie. Elle avait fait des démarches et ne savait où se renseigner. L'autre jour, Stéphanie Ilinichka Bedriagine, une riche marchande, m'a dit « Écris sur un billet le nom de ton fils, Prokhorovna. Va à l'église et commande des prières pour le repos de son âme. Son âme sera dans l'angoisse et il t'écrira. C'est un moyen sûr et fréquemment éprouvé. »
Seulement, j'ai des doutes, toi qui es notre lumière. Dis-moi si c'est bien ou mal.
Garde-t'en bien. Tu devrais même avoir honte de le demander. Comment peut-on prier pour le repos d'une âme vivante, et sa propre mère encore? C'est un grand péché, comme la sorcellerie. Seule ton ignorance te vaut le pardon. Prie plutôt pour sa santé, la reine des cieux. « Prompte médiatrice, auxiliaire des pécheurs, afin qu'elle te pardonne ton erreur. »« Et alors, Prokhorovna, ou bien ton fils reviendra bientôt vers toi, ou il enverra sûrement une lettre. »« Sache-le, va en paix, ton fils est vivant, je te le dis. »«
Bien-aimé, que Dieu te récompense, toi notre bienfaiteur, qui prie pour nous tous, pour le rachat de nos péchés. »
Mais le staré avait déjà remarqué dans la foule le regard ardent, dirigé vers lui, d'une paysanne à l'air poitrinaire, accablée bien qu'encore jeune. Elle gardait le silence, ses yeux imploraient, mais elle paraissait craindre de s'approcher.
« Que veux-tu, ma chère ?
Soulage mon âme, bien-aimée, murmura-t-elle doucement. Sans hâte, elle se mit à genoux, se prosterna à ses pieds. J'ai péché, mon bon père, et je crains mon péché. Le staré s'assit sur la dernière marche. La femme se rapprocha de lui, toujours agenouillée.
Je suis veuve depuis 3 ans,
commença-t-elle à mi-voix. La vie n'était pas gaie avec mon mari. Il était vieux et me battait durement. Une fois qu'il était couché, malade, je songeais en le regardant. Mais s'il se rétablit et se lève de nouveau, alors qu'arrivera-t-il? Et cette idée ne me quitta plus.
« Attends, » dit le staré en approchant son oreille des lèvres de la femme. Celle-ci continua d'une voix qu'on entendait à peine. Elle eut bientôt fini.
« Il y a 3 ans ?» demanda le staré.
« 3 ans. D'abord, je n'y pensais pas, mais la maladie est venue et je suis dans l'angoisse. »«
Tu viens de loin ?»«
J'ai fait 500 verstes. »
« T'es-tu confessé ?»«
Oui, 2 fois. »
« As-tu été admise à la communion ?»«
Oui. J'ai peur de mourir. » »«
Ne crains rien et n'aie jamais peur. Ne te chagrine pas. Pourvu que le repentir dure, Dieu pardonne tout. Il n'y a pas de péché sur la terre que Dieu ne pardonne à celui qui se repent sincèrement. L'homme ne peut pas commettre de péché capable d'épuiser l'amour infini de Dieu. Car peut-il y avoir un péché qui dépasse l'amour de Dieu? Ne songe qu'au repentir et bannis toute crainte. Crois que Dieu t'aime, comme tu ne peux te le figurer, bien qu'il t'aime dans ton péché et avec ton péché. Il y aura plus de joie dans les cieux pour un pécheur qui se repent que pour 10 justes. Ne t'afflige pas au sujet des autres et ne t'irrite pas des injures. Pardonne dans ton cœur au défunt toutes ses offenses envers toi. Réconcilie-toi avec lui en vérité. Si tu te repens, c'est que tu aimes. Or, si tu aimes, tu es déjà à Dieu. L'amour rachète tout, sauve tout. Si moi, un pécheur comme toi, je me suis attendri, à plus forte raison le Seigneur aura pitié de toi. L'amour est un trésor si inestimable qu'en échange tu peux acquérir le monde entier et racheter non seulement tes péchés, mais ceux des autres. Va, et ne crains rien. » Il fit 3 fois sur elle le signe de la croix, ôta de son cou une petite image et la passa au cou de la pécheresse, qui se prosterna en silence jusqu'à terre. Il se leva et regarda gaiement une femme bien portante qui tenait un nourrisson sur les bras.
« Je viens de Vichégorié, bien-aimée. »
« Tu as fait près de 2 lieues avec cet enfant sur les bras? Que veux-tu ? »
« Je suis venue te voir. Ce n'est pas la première fois, l'as-tu déjà oublié ? Tu as peu de mémoire si tu ne te souviens pas de moi. On disait chez nous que tu étais malade.
Eh bien, pensais-je, je vais aller le voir. »
« Je te vois, et tu n'as rien. Tu vivras encore 20 ans, ma parole. Comment pourrais-tu tomber malade quand il y a tant de gens qui prient pour toi ?»«
Merci de tout cœur, ma chère. » »«
À propos, j'ai une petite demande à t'adresser. Voilà 60 kopecks. Donne-les à une autre plus pauvre que moi. En venant, je songeais, mieux vaut les lui remettre. Il saura à qui les donner. »
« Merci, ma chère. Merci, ma bonne. Je n'y manquerai pas. Tu me plais. C'est une fillette que tu as dans les bras ?»«
Une fillette, bien-aimée. Élisabeth. » »«
Que le Seigneur vous bénisse toutes les deux, toi et la petite Élisabeth. Tu as réjoui mon cœur, mère. Adieu, mes chères filles. »
Il les bénit toutes et leur fit une profonde révérence.